Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. L'état de santé du pape est stable. Le Saint-Père poursuit les traitements pour la bronchite à la polyclinique Agostino Gemelli où il est hospitalisé. En raison de son hospitalisation, ses activités publiques sont annulées jusqu'à dimanche. En visite au Burkina Faso, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, a rencontré les chefs de l'État burkinabé et une distinction honorifique lui a été décernée. Ouverture du centenaire de l'évangélisation de l'archidiocèse de Boaké en Côte d'Ivoire. Vous aurez les détails dans l'actualité de l'Église qui nous conduira aussi au Tchad. Les Nations Unies accusent les groupes armés M23, alliés des troupes rwandaises, d'avoir exécuté des enfants à Bukavu, ville de l'Est de la RDC, dont ils ont pris le contrôle depuis dimanche. Nous en parlerons dans l'actualité sociale et politique en Afrique, qui nous conduira aussi au Soudan, en Égypte. Avant notre rubrique sur les prises de position des évêques et la vie des chrétiens dans le monde, vous écouterez les frères jésuites Michael Schöpf, directeur international du JRS, le service jésuite pour les réfugiés, sur les conséquences de la suspension de l'aide américaine sur les activités de cet organisme humanitaire. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Stanislas Kambashi.
Ouvrons cette édition par l'état de la santé du Saint-Père. Le pape François est toujours hospitalisé à la polyclinique Agostino Gemelli de Rome. La nuit a été tranquille, a rapporté la salle des presses du Saint-Siège mardi. Et en raison de cette hospitalisation du Saint-Père, les activités du pape sont annulées jusqu'à dimanche. Fabrice Baguendekere.
Le pape poursuit le traitement prescrit par les médecins. Il n'a pas de fièvre et son état de santé est stable selon le bulletin de santé des médecins mardi. Chaque matin, il reçoit l'Eucharistie et occupe ses journées en alternant travaux et lectures. La salle de presse du Saint-Siège, qui rapporte ces informations des médecins, informe aussi que le pape est touché par les nombreux messages d'affection et de proximité qu'il continue à recevoir en ces heures. Il souhaite en particulier adresser ses remerciements à ceux qui sont actuellement hospitalisés pour l'affection et l'amour qu'ils expriment à travers des dessins et des messages de vœux. Il prie pour eux et demande qu'ils prient pour lui. En raison de l'état de santé du Saint-Père, l'audience générale de mercredi 19 février est annulée. L'audience jubilaire du samedi 22 février est aussi annulée. Pour la célébration de la Sainte Messe à l'occasion du jubilé des diacres, prévu le dimanche 23 février à 9h dans la basilique Saint-Pierre, le pape François a délégué Mgr Rinon Fisichella, préfet du dicastère pour l'évangélisation, section pour les questions fondamentales de l'évangélisation dans le monde.
Merci Fabrice. Et le pape François qui a adressé mardi une lettre pour les 20e anniversaire de la faculté théologique de Triveneto au nord de l'Italie. Dans sa lettre, le pape encourage cette famille académique à la persévérance pour relever avec audace les nouveaux défis et d'apporter efficacement la vérité de l'évangile à l'homme contemporain. Pour atteindre ces buts, votre faculté est appelée à être de plus en plus un lieu de formation, non seulement à travers l'étude de la théologie, mais aussi à travers le témoignage chrétien de chaque individu, a écrit le pape. Dernier jour de la visite du cardinal Pietro Parolin au Burkina Faso. Arrivé à Ouagadougou vendredi 14 février, le secrétaire d'État du Saint-Siège a eu plusieurs activités, dont des rencontres avec les autorités politiques et administratives du pays et avec les leaders religieux. Dimanche, il a présidé la messe pour la clôture du jubilé des 125 ans de l'évangélisation du Burkina Faso. Dans la matinée de lundi, le cardinal Parolin avait été reçu par le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Toujours lundi, dans la soirée, une distinction honorifique a été décernée au secrétaire d'État du Saint-Siège par les ministres des Affaires étrangères et des Burkinabés à l'étranger, Jean-Marie Traoré, qui représentait les chefs de l'État burkinabé. Le cardinal Pietro Parolin est ainsi élevé au rang de l'officier de l'ordre de l'étalon qui récompense les mérites personnels et les services éminents, civils ou militaires, rendus à la nation burkinabé. L'actualité de l'Église en Afrique nous conduit en Côte d'Ivoire. l'archidiocèse de Boaké, situé au centre nord de ce pays, a officiellement ouvert dimanche les activités célébrant son premier centenaire de l'évangélisation. La messe inaugurale a été présidée par l'archevêque Mgr Jacques Nsavo Aiwa. Dans son homélie, Mgr Aiwa a exhorté ses diocésains à s'inspirer de premiers missionnaires, les pères de la Société des missions africaines SMA, afin d'imiter leur sens du sacrifice, leur patience et leur persévérance face aux épreuves. Leur foi et leur espérance témoignent à travers les fruits tangibles de leur œuvre que rien n'est impossible à Dieu, a-t-il affirmé. Marcel Ariston Blé.
Il y a 100 ans, les prêtres de la Société des missions africaines, sous la conduite du père Joseph Smith, quittèrent la France pour apporter le message chrétien à Boaké. Ils sont venus pour nous enseigner, nous partager, nous faire bénéficier des grâces et du salut que donne la foi au Christ. Tout en leur traduisant sa gratitude pour ce beau message de foi chrétienne, Mgr Jacques Nsavo Aiwa, archevêque métropolitain de Boaké, dans son homélie, a souligné les immenses difficultés qu'ils ont dû surmonter. En dépit des obstacles, ils ne se sont jamais découragés car ils avaient mis leur confiance en Dieu, porteur de sa parole de vie et d'espérance, a rappelé l'archevêque. Ils étaient comme l'arbre planté près de l'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se fane jamais, a-t-il ajouté. Nous en sommes les heureux bénéficiaires et rendons grâce à Dieu pour leur présence, s'est-il félicité. À l'occasion donc de l'ouverture de ce centenaire, Mgr Aiwa a encouragé ses diocésains à s'inspirer des vertus des premiers missionnaires, à savoir le sacrifice, la patience et la persévérance face aux difficultés. Car leur foi, leur espérance est manifestée à travers les résultats concrets de leur travail, nous montre que rien n'est impossible à Dieu, a-t-il exhorté. L'archevêque métropolitain de Boaké a également appelé les chrétiens à être des missionnaires zélés dans le cadre de la nouvelle évangélisation de la région de Boaké. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Au Tchad, l'archidiocèse de N'Djamena a célébré en différé dimanche à la paroisse Saint-Paul de Kabalaï la journée mondiale du malade, couplée à la journée du personnel de la santé. Les détails d'Edouard Takadji.
L'espérance ne déçoit pas. C'est à travers ce thème que la journée mondiale des malades célébrée en différé s'est déroulée. Ce thème est au cœur de la mobilisation des fidèles chrétiens et des personnes de bonne volonté qui se sont mobilisées pour apporter leur assistance multiforme aux malades. Lors de cette célébration, l'archevêque métropolitain de N'Djamena, Mgr Edmodji Tangara, a oint les huiles saintes au front des malades, puis imposé les mains sur chaque professionnel de la santé pour implorer la grâce de Dieu sur eux. Cette Eucharistie n'est pas seulement bénéfique aux malades affaiblis, mais aussi à certains fidèles qui ont reçu l'onction d'huile sainte des mains de l'ordinaire du lieu. Dans son homélie, l'archevêque métropolitain de N'Djamena a exhorté les fidèles chrétiens à porter une attention particulière aux malades. À la fin de cette célébration, des groupes se sont constitués et ont rendu visite aux malades dans les hôpitaux tels que la Garnison, les Bons Samaritains de Walia, de la Mère et de l'Enfant, ainsi que de l'hôpital Notre-Dame des Apôtres, tout en leur remettant des dons. Edouard Takadji, N'Djamena pour Radio Vatican.
Actualité sociale et politique en Afrique. Les Nations Unies ont accusé mardi le groupe armé M23, allié des troupes rwandaises, d'avoir exécuté des enfants à Bukavu après la prise des contrôles dimanche de cette ville de l'Est de la République démocratique du Congo. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a confirmé des cas d'exécution sommaire d'enfants par les M23 après son entrée dans la ville de Bukavu la semaine dernière. Nous demandons au Rwanda et au M23 de veiller à ce que les droits humains et les droits humanitaire international soit respecté, a déclaré une porte-parole, Ravina Shamdasani, lors d'un point de presse. Plus de 200 civils, hommes, femmes et enfants, ont été tués au cours des trois derniers jours dans des attaques des paramilitaires soudanais contre deux villages de l'État du Nil Blanc dans le sud du pays, a affirmé mardi un groupe d'avocats pro-démocratie. Les forces de soutien rapide ont attaqué des civils non armés dans des zones sans présence militaire, dans les localités d'Al-Kadaris et d'Al-Kelouat, a indiqué ce groupe d'avocats documentant les violations des droits humains depuis les débuts de la guerre en avril 2023 entre l'armée et les paramilitaires au Soudan. L'Égypte a annoncé mardi le report au 4 mars du sommet extraordinaire de la Ligue arabe sur la bande de Gaza, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. La rencontre devait se tenir au Caire la semaine prochaine. La nouvelle date a été fixée en coordination avec Bahreïn, qui occupe la présidence tournante de la Ligue arabe, ainsi qu'avec d'autres pays de la région et dans le cadre des préparatifs logistiques du sommet, a précisé le ministère. Ce sommet avait été convoqué en réponse à la proposition du président américain Donald Trump de placer la bande de Gaza sous contrôle américain et de déplacer sa population vers l'Égypte et la Jordanie. Au Mali, une vingtaine de civils ont été tués lundi dans le nord du pays quand leurs véhicules ont été pris pour cible, selon des sources locales, accusant des mercenaires du groupe Wagner et des militaires maliens. L'armée malienne a évoqué de son côté une série d'accrochages avec des groupes armés terroristes. Selon ces sources locales, des personnes migrantes voyageant clandestinement vers l'Algérie figurent parmi les victimes. La suspension provisoire des aides américaines a suscité beaucoup de réactions de la part des organisations humanitaires qui en dépendaient. C'est le cas du JRS, les services jésuites pour les réfugiés, engagés aux côtés des déplacés dans plusieurs pays, notamment en Afrique. Le frère jésuite Michael Schöpf est directeur international du JRS. Il rappelle combien cette aide bénéficiait directement à des projets destinés à plus de 100 000 réfugiés, principalement dans les domaines de l'éducation, de la santé mentale et de l'aide d'urgence.
Effectivement, ça a un grand effet sur nos projets. D'abord, on a 9 projets qui sont actuellement en suspension dans 9 pays différents, avec un volume annuel de 18 millions de dollars. Et ça touche plus de 100 000 réfugiés autour du monde. Les projets s'arrêtaient d'un jour à l'autre. On a reçu les nouvelles le 24 janvier. Et on devait arrêter les activités le jour même. Vous pouvez imaginer, il s'agit des écoles, des projets pour la santé mentale, de l'aide d'urgence, des programmes pour les enfants, etc., que ça bouleverse la vie. Ce n'est pas uniquement un atout, mais c'est vraiment un élément fort de la vie des personnes qui s'est arrêté du jour au lendemain.
Alors, c'est précisément l'aspect qui est le plus choquant, peut-être, c'est cette interruption brutale, immédiate, qui vous met en l'espace de 24 heures dans une situation extrêmement difficile.
C'est ça. Et il faut reconnaître les effets sur le terrain. Donc, premièrement, on se met en mode d'urgence et on a lancé un appel à toutes les provinces jésuites, à tous nos bénéfacteurs les plus fidèles. Et vraiment, ils nous ont aidés de commencer au moins avec un service essentiel. Mais effectivement, il n'y a aucune organisation qui peut remplacer ce que faisait le gouvernement américain avant. En plus des effets sur le terrain, nous avons noté, et ça suscite une réaction forte de notre part, que les mesures proposées ne sont pas uniquement une nouvelle politique pour les réfugiés ou une nouvelle politique pour l'éducation ou des difficultés avec le développement. Il faut dire qu'on propose un ordre mondial qui ne se passe plus sur des valeurs. Et ça, c'est le grand changement qu'on vit actuellement. Donc, il s'agit d'un agenda marqué pas uniquement par d'autres mesures politiques, mais un agenda qui propose les effets avec un ton de haine et de destruction.
Vous y voyez une nouvelle idéologie derrière cette politique?
Ce qu'il faut reconnaître, ce que les Américains appellent « transactional », c'est-à-dire on est à une table de négociation et si vous venez avec rien, vous ne comptez pas. Donc, c'est-à-dire, les personnes qui ne peuvent pas contribuer quelque chose à un échange sont des objets sans valeur. Et comme nous travaillons avec des populations fragiles, nous-mêmes sommes dans des enjeux et nous retrouvons dans une situation un peu pareille.
Cette situation, que nous dit-elle de la valeur de l'humain?
Je pense que le message est très concret. Moi, je vaux plus que vous. Et ce que compte, c'est que moi, je vaux plus que vous. Non? C'est-à-dire, il n'y a pas de reconnaissance de l'être humain comme entité qui porte les valeurs. Ça a commencé avec les réfugiés, ça commence avec des personnes dans d'autres contextes fragiles, mais ça ne va pas s'arrêter là. Et ce que nous témoignons à cet instant, c'est qu'on veut détruire les institutions qui mettent en œuvre un ordre mondial qui se base sur les valeurs.
Le frère jésuite Michael Schupp, directeur international du JRS, les services jésuites pour les réfugiés, des propos recueillis par Jean-Charles Puzzolo. Concluons cette édition avec la rubrique sur les prises de position des évêques et la vie des chrétiens dans le monde. Parole à Marie-Josée Moindo-Boisboilo.
Commençons cette rubrique par le message de condoléances du cardinal Charles Beau, président de la conférence des évêques catholiques du Myanmar, concernant l'assassinat du père Donald Martin Ye Nai Nguyen, prêtre de l'archidiocèse catholique de Mandalay, tué par un groupe d'hommes armés dans la soirée du vendredi 14 février. Son corps sans vie, mutilé et défiguré par des coups de couteau, a été retrouvé par des paroissiens dans l'enceinte de la paroisse Notre-Dame de Lourdes, dont il était le curé. Il s'agit du premier prêtre catholique tué dans ce conflit civil au Myanmar. Dans ce message publié au nom de la conférence épiscopale, le cardinal Beau exprime son empathie et sa profonde proximité avec la communauté de Mandalay. L'Église catholique du Myanmar pleure cette perte avec l'archevêque Marco Tin Nguyen, les prêtres, les religieux et les fidèles de l'archidiocèse de Mandalay, ainsi que les parents et les proches du père Donald Martin Ye Nai Nguyen. Que Dieu le Père, Seigneur de toute vie, réconforte vos cœurs endeuillés et les nôtres. Profondément choqués et attristés, les évêques de Myanmar espèrent que le sang et les sacrifices d'innombrables innocents ainsi que celui du père Donald Martin puissent servir d'offrande pour mettre fin à la violence qui sévit dans tout le pays. En tirant les leçons de ces expériences douloureuses, que l'esprit de fraternité se réveille. Nous appelons avec ferveur à la fin de la violence, écrivent les évêques, lançant un appel à la paix. Le message exhorte les responsables à prendre des mesures qui s'imposent et à veiller à ce que justice soit faite afin que de tels incidents ne se reproduisent plus à l'avenir. Face au durcissement de la politique migratoire du président américain Donald Trump, le père Giovanni Bisotto, provincial scalabrinien pour les États-Unis et le Canada, ainsi que le Mexique, le Guatemala et le Salvador, a dans un entretien avec les médias du Vatican affirmé que protéger les migrants et les réfugiés n'est pas une option, c'est un devoir moral. Le père Bisotto défend une position de solidarité vis-à-vis des migrants pour la défense de leur dignité et de leurs droits, comme l'avaient déjà fait les missionnaires de Saint-Charles-Borromée et la conférence épiscopale américaine. Il s'agit, poursuit-il, de personnes qui, au prix de sacrifices, ont entrepris de tout risquer pour trouver une opportunité dans la vie. On l'écoute.
Dans nos communautés multiculturelles, nous avons des migrants qui sont là depuis 20 ou 30 ans. Ils ont leur vie ici, leur famille, mais ils n'ont pas de papier. Et il y a une grande peur dans la population qui est installée ici depuis des années. Et une peur surtout chez ceux qui sont arrivés ces deux dernières années, de savoir s'ils pourront rester ou s'ils seront renvoyés chez eux. Il y a eu beaucoup de décrets administratifs du président qui effraient tout le monde.
Les migrants viennent pour travailler, les migrants ne sont pas criminels.
Les migrants viennent ici pour travailler, ce ne sont pas des criminels. Les migrants ne sont pas des mauvaises personnes, ce ne sont pas des assassins. Ce sont des gens qui ont beaucoup souffert, mais qui ont une grande résilience, comme on dit. Ils luttent pour leur propre bien et celui de leur famille. On doit protéger nos frontières, mais toujours avec des moyens humains. C'est un devoir moral de prendre soin d'eux, de les accueillir et de cheminer avec eux pour les intégrer dans le tissu social.
Les évêques de Belgique ont publié mardi 18 février un message indiquant leurs préoccupations face à la situation de guerre qui empire de jour en jour au nord et au sud du Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. La prise des villes de Goma et de Bukavu entraîne de graves dommages pour la population, de nombreuses morts de civils et des violences commises par tous les camps, déplorent-ils dans ce message où ils affirment leur solidarité aux évêques de Goma et de Bukavu, ainsi qu'à tous les fidèles et habitants de leur diocèse, tout en appelant au respect du droit humanitaire international et de l'intégrité territoriale du Congo. Les évêques de Belgique se joignent à l'appel du pape François aux autorités locales et à la communauté internationale pour qu'elles fassent tout leur possible pour résoudre le conflit par des moyens pacifiques. Ils appuient également les initiatives de dialogue entamées par les autorités religieuses congolaises, catholiques et protestantes.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du service Français-Afrique des Radios Vatican, Stanislas Kambashi qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.